Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, je suis Marie, animatrice à la Conf de l'Ain, et je reçois tous les premiers mardis du mois à l'antenne de Radio B un ou une membre de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, nous allons revenir avec Xavier et Alice sur la dermatose nodulaire contagieuse bovine, maladie dont la gestion a de lourdes conséquences sur les élevages de la région depuis sa survenue en Savoie fin juin. Bonjour Xavier et Alice.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Donc Alice, je suis co-porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ain. Je suis paysanne à Ambronay, éleveuse de bovins et de porcs plein air.
Et donc Xavier, moi je suis porte-parole de la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes et je suis éleveur de vaches à Confrançon, voilà, dans Bresse.
Merci de votre présence aujourd'hui. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette maladie ? D'où est-ce qu'elle vient ? Comment elle se transmet ?
Alors, la dermatose nodulaire contagieuse bovine est, comme son nom l'indique, bovine. C'est une maladie qui se transmet que aux bovins. Elle vient du continent africain, où elle y existe depuis des dizaines d'années. Elle a avancé en France avec des animaux qui sont sûrement arrivés malades. C'est à peu près la seule solution possible. Elle se transmet par les stomox et les temps, c'est-à-dire en fait par les mouches piqueuses. Ça passe par le sang d'un animal à l'autre. Et ces mouches peuvent se déplacer de quelques kilomètres autour du foyer infesté.
D'accord. Quelle est la stratégie de l'État face à cette maladie ?
L'abattage total, c'est leur première stratégie. L'idée, c'est d'assainir le foyer. Donc du coup, quand un animal est malade, tout son foyer va être abattu. Des zones vont être instaurées. Vous allez avoir des zones de cœur, là où il y a la maladie, le foyer. Des zones de protection, 20 km autour. Et des zones de surveillance, 50 km autour. Et après, au-delà de 50 km, vous êtes considéré en zone indemne. Dans ces foyers, il va y avoir plusieurs niveaux de restrictions. Et globalement, c'est interdiction de mouvement, de tous les mouvements, et interdiction aussi de se déplacer.
Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est les symptômes de la maladie qui sont quand même assez sévères pour les animaux qui sont malades, avec beaucoup de fièvre, des jetages, et au bout de la maladie, finalement, des nodules qui se développent un peu partout sur le corps de l'animal et même en interne. Donc voilà, c'est vraiment pas une maladie sympa, on va dire, voilà. Mais aussi, on peut dire que quand même, le problème des éleveurs, en tout cas la plus grande peur des éleveurs chez nous lors de cette épidémie de dermatose, c'était finalement plus la politique de l'État et la logique d'abattage total que la maladie en elle-même. Et c'est là qu'est le problème pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème d'éthique, de morale là-dessus. Voilà, on a plus peur en tant qu'éleveur de la politique qui a été mise en place par l'État que de la maladie elle-même. Parce que, encore une fois, notre travail d'éleveur, c'est de soigner les animaux, c'est d'en prendre soin, comme le terme l'indique. C'est d'éventuellement choisir une prophylaxie pour le guérir de la maladie. C'est mettre de côté en quarantaine ces animaux pour que la maladie ne se répande pas dans l'élevage. C'est éventuellement euthanasier l'animal malade parce que il est potentiellement porteur de la maladie, il peut le transmettre à d'autres. Mais c'est en aucun cas abattre des animaux sains. Mmh. Voilà.
En sachant que j'ai oublié de dire, mais dans la stratégie, il y a aussi vaccination à 100% dans la zone, okay. Ce qui est en plus complètement entendable, parce que comme dit Xavier, c'est une maladie difficile qui engendre quand même 90% de morbidité, c'est-à-dire 90% de bêtes malades, ce qui est quand même beaucoup.
Ça marche. Du coup, Alice, toi, donc, tu es sur Ambronay, concrètement, tu es en zone réglementée là, vis-à-vis des cas qui sont apparus en Savoie et également dans l'Ain et puis depuis peu dans le Rhône. Qu'est-ce que ça implique concrètement au quotidien sur ta ferme ?
Alors moi, je suis en zone de surveillance depuis le début, c'est-à-dire depuis la fin juin. Donc maintenant, ça commence à faire un petit moment. Ce que ça engendre chez moi, c'est que je n'ai pas le droit de bouger de bovins. Au départ, je n'avais même pas le droit de les changer de pré. J'étais censée les nourrir au pré, donc avec du lafourrage. Les animaux ne peuvent pas sortir des fermes. Donc pour tout ce qui va être laitier, les animaux sont bloqués sur ferme. Au lieu d'être que là quelques jours, ils vont être là plusieurs mois. Donc il faut les nourrir aussi. Vous n'avez pas le droit d'acheter ou de vendre des animaux. Vous n'avez pas le droit de descendre les animaux des alpages. Vous n'avez pas le droit d'étendre votre lisier. Donc les bâtiments sont pleins de lisiers ou de fumures. Certains les ont stockés dehors, mais ce n'est pas génial. Maintenant, on a le droit de mettre du lisier ou de la fumure, mais il faut mettre de la chaux par-dessus, donc vous bousillez vos sols, donc vous ne le faites pas non plus. Vous devez faire des visites vétérinaires. À chaque fois, vous devez amener, par exemple, un animal à l'abattoir ou faire un sevrage de veau, etc. Ça vous coûte de l'argent. vous avez interdiction de sortir de la zone, etc., etc. C'est beaucoup, beaucoup de règlements dont même l'État se perd dans ses règlements et quand vous appelez, ils n'ont pas toujours la réponse.
Ça marche. En zone indemne, j'imagine qu'il y a aussi...
Oui, des... alors moi, j'ai la chance d'être toujours en zone indemne, contrairement à Alice. Et moi, je suis sud-Bresse, voilà, à proximité de la Dombes. Là, et on est entre deux zones de protection, hein, finalement. Donc moi, je suis à moins de 10 km du côté de la zone de protection savoyarde et puis à une vingtaine de kilomètres du côté de la zone de protection Rhône, là, puisqu'il y a eu un cas dans le Rhône. Et donc, le même processus, hein, 50 km autour du cas. Voilà. Alors nous, par contre, c'est l'inverse. On n'a pas accès à la vaccination. On a même interdiction de vacciner ou en tout cas pas de vaccin disponible. Et c'est pas dans la politique de l'État de permettre aux éleveurs en zone indemne de vacciner. Donc du coup, ça génère aussi on va dire une peur, hein, de la part des éleveurs parce qu'ils sont très près malgré tout des zones de protection et donc ils ont peur d'attraper la maladie. Donc ils se disent pourquoi faudrait que j'attende que la maladie se déclare chez moi pour vacciner. C'est aberrant. Donc là, il y a quand même aussi une sacrée frustration et finalement, on aurait permis aux éleveurs qui le souhaitent de vacciner, ça aurait aussi permis, on va dire, de refaire descendre la pression de la part des éleveurs, pour les éleveurs en tout cas, au cours du temps.
Dans la zone numéro 1, qui s'est quand même étendue plusieurs fois, hein, il y a eu plusieurs cercles disponibles, on a vacciné depuis début juillet. Donc normalement, au-delà de 28 jours, vos animaux sont considérés comme 100% protégé contre la DNCB. Mais ça a un petit peu libéré sur les mouvements. On peut maintenant changer de pré, avoir des dérogations diverses et variées. Mais chaque dérogation demande la venue d'un vétérinaire. Et après, vous avez zone numéro 2 qui vient de s'instaurer dans le Rhône, où là, les vaccins sont un peu longs à mettre en place parce qu'on n'avait pas les doses disponibles. Il faut que ça revienne. Ouais. Les vaccins viennent directement d'Afrique du Sud. Alors, on a de la chance. Le vaccin existait. C'est arrivé assez vite. Mine de rien, fin juillet, c'était pas mal. Mais il n'empêche que maintenant, il faut réacheminer. Donc du coup, la zone réglementée numéro 2 est vraiment bloquée pour le moment.
Pour donner quelques chiffres aux auditeurs et auditrices de Radio P, là, donc depuis le premier cas qui est apparu le 29 juin, on en est à près de 80 foyers considérés, donc à pas loin d'une cinquantaine de fermes. Et au total, le nombre de bovins abattus, c'est près de 1800, c'est bien ça?
C'est bien ça, 1800 bovins abattus, voilà. Et par exemple, pour le problème qu'a soulevé Alice de restriction des mouvements, on évalue à peu près 4000 animaux en alpage aujourd'hui qui sont coincés et qui ne peuvent pas redescendre, qui sont face à des conditions quand même particulières, puisqu'il neige déjà au-dessus de 1500 mètres, 2000 mètres. Donc on a des bovins qui sont prêts à veler, prêts à mettre bas. Un petit veau, vous imaginez, dans un désert blanc, sans accès à l'herbe, avec quand même beaucoup d'inconvénients. Donc les éleveurs voudraient pouvoir redescendre ces troupeaux d'alpage dans leur ferme. Or, ce qui se passe, c'est que pour une part, c'est des gens qui sont en zone indemne, comme moi, et qui ont mis leurs animaux en alpage pendant l'été. Pour l'été, c'est une pratique qui est quand même courante, et notamment dans les Savoies, et qui ne peuvent pas tout simplement rapatrier leurs animaux dans leur élevage et prendre soin de leurs animaux. Encore une fois, c'est notre métier d'éleveur de prendre soin de nos animaux, et c'est d'autant plus difficile.
Oui, on comprend que les conséquences sont quand même très nombreuses. Quel est le point de vue de la CONF sur la stratégie de l'État face à cette maladie et quelles sont ses revendications pour une autre gestion sanitaire?
Alors, la Confédération paysanne, déjà, dit que l'abattage total a peut-être été un petit peu trop poussé. C'est-à-dire que faire de l'abattage total pour faire de l'abattage total sans réfléchir à une possibilité d'abattage partiel est quelque chose de grave et qui, comme on dit Xavier, implique énormément les éleveurs qui sont là pour soigner les animaux et non pour les abattre. La question est aussi autour de l'immunité. Certes, c'est une maladie contagieuse, certes, c'est une maladie grave, mais qu'en est-il de l'immunité acquise? Quand un animal est guéri, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est encore porteur de la maladie ou pas? Tout ça, on n'a pas de réponse. Quelles sont les possibilités de guérison, de soigner? Pas de réponse. Et ça, au niveau de la Confédération paysanne, on aimerait bien au moins qu'on commence à y travailler. Les règles dont on parle dans les zones la réglementées n'ont absolument pas été élaborées avec la profession. Elles ont été faites avec l'administration, elles ont été faites avec quelques uniques personnes dans les chambres d'agriculture, mais pas du tout avec les agriculteurs sur le terrain, ce qui a amené des règles complètement inapplicables et qui a notamment amené des règles inappliquées. Il ne faut pas se leurrer. C'est tellement inapplicable que ça a été inappliqué. Et ça a des vraies conséquences parce que ça a amené des nouveaux foyers. Les gens ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû. Et vu qu'on faisait peur avec l'abattage total et avec des règles inapplicables, les gens n'ont pas respecté les règles qui auraient dû être respectées.
C'est contre-productif, effectivement. Ça, c'est nous, c'est ce qu'on dit. Alors, un élément aussi, on n'a pas mis du tout en cause la logique d'éradication de la maladie. Mais on peut en discuter. Hein. C'est légitime de le discuter, mais en tout cas, dans un premier temps, et voilà, pour la DNC, parce que c'est une maladie très grave pour les bovins, on n'a pas mis en cause cette logique d'éradication, mais simplement on dit qu'il y avait peut-être possibilité, avec l'abattage partiel, l'abattage ciblé, d'avoir à peu près le même résultat en termes de maintien et d'éradication de la maladie sur le territoire. Voilà, et qu'on a choisi finalement la politique du pire, en tout cas pour protéger sans doute les intérêts commerciaux de la France, qui ne sont pas petits. Hein. Nous, on ne minimise pas. Je veux dire, y a des logiques d'exportation, notamment sur le maigre, les animaux maigres, les bovins maigres, les veaux maigres qui partent en Italie, en Espagne. Et donc, pour maintenir ces flux commerciaux, on a choisi de mettre sous cloche un territoire et d'éradiquer la maladie sur un territoire le plus petit possible, d'où la logique d'abattage total, qui se comprend dans cette logique-là. Hein, nous, on est, voilà. Sauf que, on est très loin de la dimension morale ou éthique de notre métier d'éleveur. Et on n'en a absolument pas tenu compte. Et dans la balance risque-avantage de cette politique-là, il n'en a jamais été question. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait faire valoir et qu'on veut faire valoir pour les prochaines. Pour le prochain coup, parce que par contre,
il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres, on est quasiment certain. Et il y aura d'autres cas de DNC en France, on peut le dire. Le réchauffement climatique, les flux commerciaux, tous ces facteurs-là, évidemment, font qu'il y a une multiplication des cas. Donc il y aura d'autres cas de DNC, puis il y aura d'autres cas de maladies. Alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il y a plein d'autres maladies qui touchent les bovins. On a une expérience vis-à-vis de ça, de tentatives d'éradication qui sont soldées par des échecs, parce que de toute façon, les virus, ils sont là, et puis il faut apprendre à vivre avec, malgré tout, et c'est ça un peu ça la difficulté.
D'où le fait que la Confédération Paysanne aimerait bien qu'on ouvre aussi la possibilité de vacciner en dehors des zones. Mais pour ça, il faut sortir de la logique commerciale et européenne qui est éradication totale et non-présence de la maladie. En fait, il faut savoir que le règlement, qui sont au niveau européen et national, impacte sur la gestion sanitaire sur le territoire sans prendre en compte le sanitaire ou le bien-être des animaux ou des éleveurs.
C'est exactement ça. Ouais.
Parce que c'est une maladie donc, qui est classée catégorie A au niveau européen. Est-ce qu'il y aurait un défaut de classement à cet endroit-là ? Parce qu'on parle de catégorie A qui se transmet à l'humain, la dermatose n'est pas de ces maladies-là.
Il n'y a que 5 maladies en catégorie A, et c'est la seule maladie de catégorie A qui n'est pas transmissible à l'homme. C'est aussi ce qu'on n'a pas dit au début, mais cette maladie, on la gère aujourd'hui comme une maladie très, très, très grave et très dangereuse, alors qu'en fait, elle n'est pas transmissible à l'homme du tout. Elle n'est même pas transmissible aux autres animaux.
Ouais, c'est ça.
Mais d'où le fait qu'il la gère comme ça. Il considère qu'elle est facilement éradicable parce qu'au bovin. D'où qu'elle soit classée A, ce n'est pas pour des conséquences finalement économiques pures ou de dangerosité pour la population, c'est parce que c'est facile.
D'accord.
Entre guillemets, hein, parce que pour l'éleveur qui se fait abattre son troupeau, c'est pas facile.
C'est pas facile, voilà.
Clairement. On parle du coup ici d'une maladie bovine. Xavier, tu parlais d'autres maladies bovines, mais en fait le parallèle il peut aussi se faire sur des maladies qui touchent d'autres espèces. Je pense à la grippe aviaire, par exemple.
La grippe aviaire, qui a été gérée un peu de la même façon, avec une éradication. Alors, par contre, l'argument qui était opposé pour la grippe aviaire, c'est que le virus mutait facilement, et on avait peur que ça soit une réserve pour, par exemple, la Covid, ça pouvait être ce virus qui se modifie et qui donne cette maladie humaine. Donc, ça a été l'un des arguments. Il ne faut pas l'exagérer non plus, cet argument. Et le résultat, ça a été vraiment aussi une très grande détresse pour les éleveurs. Je pense aux éleveurs du Sud-Ouest qui ont beaucoup pâti de cette logique-là. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que le résultat de ce genre de politique sanitaire, c'est moins de paysans, moins d'éleveurs, moins de petits éleveurs, parce que ça touche indifféremment les petits et les gros éleveurs. Mais du coup, les petits éleveurs, ils ont souvent moins de ressources pour se relancer dans la production. Et ce qu'on subodore en Savoie, notamment, Savoie-Haute-Savoie, qui est une zone AOP, avec beaucoup de fromages typiques, avec des petites fruitières, etc., et bien que ça risque de décourager une partie des éleveurs de repartir et de retrouver des animaux. En plus, avec les difficultés, on est encore une fois, on est sur des modes de production vraiment particuliers, avec des races de bovines qui ne sont pas faciles à trouver, la tarine, l'abondance, par exemple, qui sont spécifiques de certaines spécialités fromagères. Et quand il va s'agir de repeupler ces troupeaux, ça va être extrêmement compliqué de trouver des reproducteurs pour le faire. Voilà. Donc ça a un impact direct sur une zone d'élevage. Voilà. Et on est aussi très inquiet pour la zone du Rhône qui est concernée, là, Saint-Laurent-de-Chavoussée, parce qu'en fait, c'est une zone extrêmement dense en élevage, avec beaucoup d'éleveurs, beaucoup de petits éleveurs, beaucoup de moyens éleveurs, beaucoup d'élevages plus importants aussi, mais beaucoup d'animaux. Et donc, du coup, je crois que c'était plus de 300 000 bovins qui étaient concernés par la vaccination sur cette zone-là. Et donc, derrière, voilà, un enjeu économique, un enjeu social et économique qui est vraiment très, très important. Voilà. Et cette logique d'éradication, elle va à l'encontre, effectivement, de garder un tissu important d'élevage. Voilà, on est dans la négation, on est dans une logique quand même d'industrialisation, et on réagit en fonction d'objectifs commerciaux et pas du tout en fonction du soin des animaux, du bien-être des éleveurs, c'est clair.
Et du coup, c'est pas du tout justifiable pour ces maladies qui ne sont pas transmissibles à l'homme. En tout cas, les éleveurs peuvent pas le comprendre, et globalement, la société peut pas le comprendre. Ce qui fait que c'est des choses difficilement compréhensibles, et on a un manque total de concertation avec les autorités. On a même un mépris pratiquement de classe, c'est-à-dire qu'il y a les ceux qui savent, qui sont dans les administrations, et nous qui devons obéir, mais qui ne savons rien, alors que c'est nous qui vivons avec le vivant et qui savons comment réagit le vivant. Mmh. Et on voit bien, la grippe aviaire, ça a été plusieurs années de crise, et c'est toujours pas fini. Aujourd'hui, ce qui le règle, c'est qu'on avait trouvé un vaccin et que beaucoup sont vaccinés, notamment la filière canard. Mmh. Et la fièvre à catarrhale ovine, qu'on a voulu aussi éradiquer, maintenant, elle est considérée comme endémique en France. Mmh. Enfin bref, on voit bien que c'est pas toujours efficace, loin de là, et qu'il va peut-être falloir trouver d'autres solutions. Mmh.
On pense fort en tout cas aux collègues, aux paysans et paysannes qui sont dans les zones concernées par toutes ces maladies, puisque malheureusement, il y en a de nombreuses. Merci beaucoup Xavier et Alice de votre présence.
Merci.
Merci à toi.
Merci à vous, auditeurs et auditrices de Radio B, pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous.